Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc. Nous allons aborder le chapitre 16. Mais avant de lire le texte pour aujourd'hui, je voudrais souhaiter la bienvenue à Matthieu, qui va nous aider à mieux comprendre le message qu'il contient. Matthieu, bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Merci pour votre invitation.
Matthieu, avant de passer à notre lecture biblique, pouvez-vous nous parler du contexte de ce chapitre 16 dans le récit de l'Évangile de Marc ?
Oui, bien sûr. En fait, nous arrivons au tout dernier chapitre de l'Évangile de Marc. Rappelons-le, le chapitre 15 s'est terminé sur une note très sombre. Jésus-Christ fut crucifié et puis enseveli. On aurait pu penser que c'était la fin du récit, mais il y avait une suite révélée dans le chapitre 16. Et ce chapitre contient une nouvelle merveilleuse et extraordinaire. Jésus-Christ est revenu de la mort à la vie. Il est ressuscité. Et il envoie ses disciples pour témoigner de lui et de sa résurrection partout dans le monde. Cédons la parole à Sandra pour la suite du récit.
Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient.
Merci. Matthieu, nous venons d'écouter les tout derniers versets de l'Évangile de Marc. Qu'apprenons-nous ?
Ces versets marquent la fin du séjour de Jésus-Christ sur la terre. Il ne se promène plus parmi les hommes en chair et en os. Il n'est plus physiquement présent avec ses disciples.
Où est-il alors ?
Selon Marc, Jésus fut enlevé au ciel où il est assis à la droite de Dieu. Les écrits de Luc, son évangile et les actes des apôtres confirment tous deux ces faits. Cela veut dire que Jésus demeure dorénavant dans les lieux célestes, dans un domaine spirituel qui pour l'instant nous est caché. Puis, s'il se tient à la droite de Dieu, cela signifie que Jésus est la personne la plus importante dans l'univers. Cela signifie aussi que Dieu lui a donné la responsabilité de régner. Jésus est le Seigneur des Seigneurs, il est souverain.
Nous pouvons nous demander ce que fait exactement Jésus maintenant qui siège à la droite de Dieu. Mais auparavant, dites-nous ce qu'ont fait les disciples, alors que Jésus n'était plus auprès d'eux de la même manière.
Les disciples ont obéi à Jésus. La dernière fois, nous avons appris que Jésus leur avait confié une mission importante, celle d'annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection partout dans le monde, celle d'exhorter les gens de tout peuple de croire en lui. À présent, nous apprenons qu'effectivement, les disciples s'en allèrent proclamer la parole en tout lieu. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, il suffit de lire le livre biblique appelé « Les Actes des Apôtres ». Ce livre, écrit par un médecin nommé Luc, nous relate certains détails importants de l'histoire des premières églises. Il raconte également le progrès de la bonne nouvelle tout autour du bassin méditerranéen grâce à l'obéissance des premiers chrétiens à la mission que Jésus leur avait confiée.
Il est intéressant de lire dans les derniers versets de l'Évangile de Marc que le Seigneur travaillait avec ses disciples tout en demeurant dorénavant dans les lieux célestes. Comment cela fut-il possible ?
Il est vrai que Marc ne nous le dit pas. Une fois de plus, nous devons nous appuyer sur les écrits de Luc, car il nous éclaire à ce sujet. Citons deux versets. D'abord l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 49.
Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.
Et ensuite, les Actes des Apôtres, chapitre 1, les versets 4 à 8. Nous y découvrons qui est la personne promise, la puissance promise.
Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent : Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ? Il leur répondit : Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde.
Donc Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit sur les disciples.
Oui, c'est bien cela. Et cette promesse s'est accomplie quelques semaines plus tard, lors du jour de la Pentecôte. Une fois de plus, si vous voulez lire le récit de ce qui s'est passé, vous le trouverez dans les Actes des Apôtres, chapitre 2.
Donc Jésus, le Seigneur ressuscité, est présent parmi son peuple et avec ses disciples par son esprit.
C'est exact, Yann. Dire que Jésus est présent en esprit signifie que sa présence n'est pas limitée dans l'espace. S'il était encore présent corporellement, il ne pourrait pas être simultanément à deux endroits différents. Il ne pourrait pas être présent avec moi ici en France et en même temps être présent avec vous, cher auditeur, dans le pays, la ville ou le village où vous vous trouvez. Jésus est présent par son esprit. Cela signifie qu'il est tout le temps avec tout son peuple à travers le monde entier. Il est partout et il est avec chaque individu qui croit en lui. Dire que Jésus est présent par son esprit signifie aussi qu'il est invisible et intangible. Nous ne le voyons pas de nos yeux, nous ne l'entendons pas de nos oreilles, nous ne le touchons pas de nos mains. Cependant, nous pouvons ressentir la présence de l'Esprit et constater les résultats de son œuvre dans nos propres vies, ainsi que dans la vie de ceux qui nous entourent.
Et Marc souligne le fait que les miracles et les signes opérés par l'Esprit, par l'intermédiaire des disciples, attestent que les promesses de Jésus sont vraies.
Et comme vous pouvez probablement le deviner, une fois de plus, le livre des Actes des Apôtres nous confirme effectivement la véracité des propos de Marc. Ce livre nous donne plusieurs exemples de miracles et de signes qui ont accompagné la prédication et le témoignage des apôtres. Le rôle de ces signes était, comme l'affirme Marc, de confirmer et d'authentifier le message apostolique de la résurrection.
Merci Matthieu. Nous avons parlé des apôtres et nous avons vu toute l'importance du livre des Actes des Apôtres, car il nous éclaire sur le sens des dernières paroles de l'évangile de Marc. Mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui ?
Encore de nos jours, Jésus est présent avec nous et avec tout son peuple par son esprit. Il sera ainsi présent avec nous jusqu'à son retour en gloire. Tout véritable chrétien a reçu le don de l'esprit. Jésus est présent avec et en tout croyant authentique par son esprit. Il n'y a pas deux classes de chrétiens, ceux qui ont reçu l'esprit et ceux qui ne l'ont pas reçu, non. Le don de l'esprit fait partie intégrale du salut que Dieu accorde par sa grâce à tous ceux et celles qui se repentent pour mettre leur foi en Christ. Revenons encore aux Actes des Apôtres et à un verset clé qui se trouve au chapitre 2. Pierre a témoigné de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ, et les gens se demandent ce qu'ils doivent faire en conséquence. Voici ce que Pierre leur répond.
Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tout ce que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui.
La promesse du salut, selon Pierre, se compose de deux éléments, le pardon des péchés et le don de l'Esprit. Cette promesse est pour tout croyant, en tout lieu et en tout temps. Le pardon et le don de l'Esprit vont de pair, ils sont inséparables. Tous ceux qui mettent leur foi en Jésus reçoivent son Esprit.
Merci. Et quelle est la place et le rôle de l'Esprit de Jésus dans la vie du croyant ?
L'Esprit joue un rôle très important dans la vie du croyant, et de plusieurs manières différentes. Parce qu'il ne nous reste que peu de temps, je vais parler d'un seul fruit de sa présence dans nos vies, à savoir le soutien de l'Esprit dans le témoignage. Le Saint-Esprit aide le disciple de Jésus, le croyant, à témoigner de sa foi en Christ. Nous avons appris lors d'une émission récente que les disciples avaient très peur des autorités religieuses et politiques. Leur maître fut arrêté devant leurs yeux pour être ensuite crucifié. Ils avaient peur que la même chose leur arrive. Qui aurait cru que quelques semaines plus tard, ces mêmes disciples se mettraient à prêcher sur les espaces publics pour annoncer que Jésus était ressuscité et qu'il fallait se repentir de ses péchés et mettre sa foi en lui? Ces mêmes disciples qui avaient peur ont trouvé le courage de proclamer Jésus, malgré les risques d'opposition et de persécution. Un tel changement s'explique seulement par la présence de l'Esprit à l'œuvre dans leur vie. Mes chers amis, si aujourd'hui vous croyez en Jésus, ce même Esprit est avec vous et en vous. Il est là pour vous aider à témoigner de Jésus-Christ. Avez-vous peur de parler de Jésus à vos amis? L'Esprit est là pour vous aider à surmonter ces peurs. Il est là pour vous donner du courage. Et il est là pour vous aider à trouver les bonnes paroles. Mes chers amis, nous savons que certains d'entre vous vivent dans des coins où les chrétiens courent des risques et s'exposent à des dangers. L'Esprit est avec vous pour vous donner du courage face à l'opposition et à l'insécurité. Il est là pour vous aider à tenir bon et ferme et à endurer toutes sortes de souffrances pour la cause de Jésus. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Mais dans notre faiblesse, l'Esprit nous rend fort et il accomplira des merveilles en nous et autour de nous.
Merci pour ces paroles encourageantes. Nous arrivons donc à la fin de toutes nos séries sur l'évangile de Marc. Comment pouvons-nous conclure?
Comme l'affirme Marc, Jésus est digne de siéger à la droite de Dieu. Son évangile le prouve bien. Nous y avons découvert Jésus. Il est le maître souverain sur la création. Il guérit les malades, apaise la tempête, multiplie les pains. Il est également le maître souverain sur le monde spirituel. La lumière de sa vérité chasse les mensonges et l'ignorance, et par sa puissance souveraine, il triomphe sur les esprits maléfiques. Jésus est le souverain serviteur. Il est venu pour apporter le salut à tous. Il a donné sa vie. Il s'est donné en sacrifice sur la croix pour obtenir notre pardon, notre réconciliation avec Dieu et l'espérance de la vie éternelle. Oui, Jésus est digne d'être assis à la droite de Dieu. Il est digne de notre adoration et de nos louanges. Il est digne de notre soumission et de notre obéissance. Il est digne de notre confiance. Il reste une seule question, une question primordiale. Croyez-vous en lui?
Merci Mathieu pour votre participation enrichissante tout au long de cette série. Chers amis, alors que nous terminons nos discussions sur l'évangile de Marc, nous vous encourageons à réfléchir sérieusement à cette question. Croyez-vous en Jésus?
En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.